شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان. مولا علی جان، مولا علی جان.
علی زن حلقه اهل یقین است، مسیح و هادی دین مبین
است. Du parcours de femme aussi, parce que je suis aussi maman d'une petite fille. Donc rien n'est impossible pour tous les jeunes qui sont aujourd'hui ici. Ce qu'il faut que vous sachiez... Trop fort ?
Non,
un peu plus fort. D'accord. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est un domaine qui est très loin de ce que vous connaissez. Ce n'est pas du business. Il ne faudra pas espérer de rentabilité directe du temps que vous allez investir. C'est un métier au service des autres. Et c'est un métier qui est extrêmement chronophage. Aussi bien pendant la période où vous serez en formation que après. Moi, je me suis inscrite en première année de médecine en 2006. Et je pense que j'ai dans la famille le record du nombre d'inscriptions en faculté. Je me suis inscrite 12 fois, 12 ans, en faculté de médecine pour pouvoir aujourd'hui exercer comme médecin, comme cancérologue dans un hôpital universitaire. Donc à l'époque où moi j'ai commencé, la première année de médecine était un tronc commun entre dentiste et médecine. Ça a un petit peu changé ces derniers temps. C'est un concours commun avec les sages-femmes, avec kiné, avec les pharmaciens. Ça ne change pas trop le fond du problème et ça ne change pas la difficulté de ce concours qui est extrêmement sélectif. Vous avez entendu parler du numerus clausus. En gros, c'est le nombre de places qui est réservé aux étudiants pour accéder à une spéciale, enfin à un domaine d'activité derrière, que ce soit médecine, pharmacie, dentiste, sage-femme. Et ce numerus clausus va écrémer une grande partie des étudiants inscrits en faculté. Vous pouvez considérer que 85% des étudiants seront en échec après un ou deux ans d'inscription en première année, enfin au fameux, à la fameuse PACES. Mais c'est quand même possible d'y arriver et il faut se donner les moyens d'y parvenir. Une fois qu'on a ce concours, les études de médecine sont très longues, mais elles passent extrêmement vite. Pourquoi ? Je n'ai pas l'impression d'avoir passé 12 ans sur les bancs d'une fac de médecine clouée sur un banc dur en bois, parce que les conditions sont toujours atroces dans les facultés françaises. Ça passe très très vite, vous arrivez très vite sur le terrain, vous prenez en charge des malades, et donc le challenge va être de pouvoir concilier formation théorique et formation pratique. Et c'est ça la vraie difficulté du métier. Donc vous allez passer 5 ans à apprendre et à emmagasiner un bagage médical qui est extrêmement théorique et qui va vous permettre de présenter au bout de ces 5 ans un deuxième concours qui n'est pas vraiment un concours mais qui est un examen national classant. En parallèle des études de médecine, il y a une grande pression, surtout parce que vous allez vous former dans des structures qui sont universitaires pour vous pousser, en plus de votre métier de médecin et de votre formation médicale, à faire de la science en parallèle. C'est pas une obligation, c'est dommage de se fermer les portes dès le départ parce que vous ne savez pas encore, à ce moment-là, au cours de votre deuxième cycle, où vous voulez aller, quel type de métier vous allez faire derrière. La médecine, c'est très large, c'est comme être ingénieur, ça peut être du business, du marketing, voilà. Il y a énormément de métiers, il y a l'industrie pharmaceutique, donc ne vous fermez aucune porte. Et donc on va vous proposer de faire des unités, donc des cours en plus encore, pour valider l'équivalent d'un Master 1 de sciences, mais appliqué à la recherche médicale. Ce qui est donc évidemment très chronophage, et c'est un investissement de temps, de temps de formation, mais je pense qu'il n'y a plus aucune formation maintenant qui ne nécessite pas de travailler. Donc au bout de ces 5 ans, vous passez l'épreuve nationale classante. Et oui, encore un concours. Ce n'est pas vraiment un concours, c'est comme le porte son nom, un examen qui va être classant, mais qui reste quand même un concours. En gros, tout le monde va avoir une place, tout le monde va pouvoir accéder au troisième cycle des études médicales, c'est-à-dire de l'internat, et donc tout le monde sera médecin, Mais le premier va choisir ce qu'il veut, le dernier va prendre ce qu'il reste. C'est à ce moment-là que vous choisissez votre spécialité et votre ville d'exercice. C'est-à-dire que vous avez pu faire vos études à Paris, et vous allez vous retrouver, parce que vous êtes mal classé, à Limoges, ou si vous êtes moyennement classé, dans une grande ville, mais pas forcément la grande ville où, où est toute votre famille, où vous avez créé tout votre entourage. Tu peux faire une marche arrière. Moi, j'ai fait le choix à ce moment-là. Donc, je suis devenue interne en médecine. J'ai choisi une spécialité qu'on appelle la spécialité médicale. Et dans cette spécialité, j'ai choisi une filière qui s'appelle la cancérologie. L'internat va varier en fonction de la spécialité que vous aurez comme clinicole. Il faut aller chercher l'information, il faut se mettre à jour. Et c'est des qualités qu'il va falloir avoir tout au long de votre carrière. C'est un métier qui évolue tout le temps, qui évolue très vite, qui est passionnant, mais on ne peut pas se contenter du bagage qu'on a appris à la fac. Entre le moment où j'ai commencé mes études et aujourd'hui, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux médicaments qui sont apparus dans le domaine de la cancérologie, et on ne traite plus aujourd'hui les malades de la même manière qu'il y a 5 ans. Donc ça évolue très vite. Pendant mes 5 ans d'internat, je me suis arrêtée une année. Alors, je n'étais pas mariée à l'époque, je n'avais pas d'enfant, donc j'étais consacrée entièrement à mon travail et j'ai fait ce qu'on appelle un master 2 de sciences, où je me suis arrêtée complètement. Donc, évidemment, on n'a plus de salaire. Là, on redevient vraiment étudiant. Et je suis retournée passer des cours, passer des examens et faire un stage de laboratoire où on fait pousser des cellules dans un tube. Bon, j'ai détesté ça, mais c'était obligatoire pour espérer avoir une carrière hospitalo-universitaire, c'est-à-dire accéder à l'enseignement, à la recherche, plus tard. Et donc, je ne savais pas encore vraiment où je voulais aller à ce moment-là, et j'ai mis une petite année entre parenthèses. À la fin de mon internat, on m'a proposé de faire 2 années de clinica. Alors, ça peut être 2 années d'assistanat. En gros, c'est 2 années un petit peu transition entre la fin de vos études et les responsabilités complètes. La différence, c'est que l'assistanat, c'est 2 ans, mais vous ne faites pas de formation, enfin pas d'enseignement, alors que le clinica, vous faites de l'enseignement, vous faites un petit peu de recherche, et c'est là que vous apprenez qui est fondamental dans le métier, que vous n'apprendrez jamais à la fac, c'est le management d'équipe. Voilà. Nous, on l'apprend sur le tas, à la dure, alors que dans les écoles, vous avez des cours et des formations, mais évidemment, quand on travaille à l'hôpital, on travaille en équipe, on n'est pas seul, à la fac, on est très seul. Il y a les infirmières, il y a les professions paramédicales, des corps de métier très différents avec des problématiques très différentes, et vous, vous devez chapeauter un petit peu tout ça, gérer tous les conflits dans un milieu qui est très féminin, donc c'est pas toujours facile. Donc ça s'apprend à la dure. Alors les études de médecine sont réputées difficiles. Je vous ai déjà donné quelques éléments filés. Ce n'est pas la longueur des études qui est difficile. Je ne pense pas. Ça passe très vite. Moi, j'ai encore l'impression d'avoir 25 ans et de sortir tout juste de la fac. Ça passe en un temps éclair. C'est des très belles années. On travaille, on a une très grande complicité avec ses collègues, on est jeune, et ça passe vraiment beaucoup plus vite que ce qu'on pense parce qu'on est sur le terrain. On se forme, on apprend, et on apprend notre métier. Il y a 6 années qui sont très difficiles. C'est les années jusqu'à l'épreuve nationale classante. Et je pense que c'est l'organisation même du parcours médical et des études qui est difficile, ce n'est pas la longueur. Dès le départ, vous allez devoir choisir votre faculté. Donc qui dit faculté, dit tous les mauvais côtés de la faculté en France. C'est-à-dire que vous êtes seul dans un amphithéâtre et vous devez apprendre l'autonomie. Déjà choisir votre faculté. On ne sait pas laquelle, il y a très peu d'informations, on est souvent perdu. C'est bien que vous ayez des contacts, des amis qui soient médecins et qui pourront vous conseiller, vous orienter, vous déstresser, parce qu'il n'y a pas de choix parfait. Moi, ce que je peux vous conseiller, quand vous devez choisir votre faculté, c'est de prioriser la faculté la plus proche de chez vous et de ne pas perdre de temps en trajet. Et si vous avez la chance d'avoir papa-maman à côté, il vaut mieux faire peut-être un quart d'heure de trajet en plus et rester chez papa-maman qu'aller s'isoler tout seul juste à côté de la faculté où c'est la dépression. Je ne vous le cache pas. Moi, j'étais chez mes parents, c'était un petit peu loin. Ils ont investi aussi en temps parce qu'ils m'ont aidé à faire les allers-retours. Mais au moins, on est soutenu moralement. C'est une année qui est difficile, la première année de médecine. C'est une année qui est plus sous forme de marathon et c'est une guerre psychologique. Ça ne va pas vous demander d'avoir le niveau d'un mathématicien. Le niveau scientifique n'est pas si élevé que ça. Et puis de toute façon, vous ne ferez quasi plus jamais de physique, de maths et de chimie dans la suite de vos études, mais il faut tout apprendre par cœur. Voilà. Vous n'avez pas le droit à l'impasse, vous n'avez pas le droit de louper des cours alors qu'ils ne sont pas obligatoires. Et donc c'est une autodiscipline, s'imposer d'aller à la faculté, s'imposer d'aller en amphithéâtre, s'imposer d'écouter des profs dans des amphithéâtres qui sont bondés, où vous n'aurez parfois pas de place pour vous asseoir. Ils sont maintenant obligés, avec les nouveaux systèmes de fusion de facultés et du coup de tronc commun entre plusieurs spécialisations, entre plusieurs métiers, d'ouvrir des amphis en parallèle où vous n'avez même pas le prof en face de vous. Ne vous isolez pas. Il faut que vous arriviez à trouver des gens de confiance pour créer un groupe de travail et puis finalement faire un peu ce qu'ils font dans les prépas, faire des genres de calls entre vous, auto-organisés. Il faut être autonome et motivé et s'organiser des séances révision. Moi, j'enregistrais les cours. J'avais un petit groupe de 4 personnes et une fois par semaine, on s'imposait de se réciter les cours quasi par cœur et on se posait des questions. Voilà. Donc, le travail doit être régulier et c'est un vrai marathon. Et puis après, il y a une part de chance. Vous avez le droit à une deuxième tentative. Je pense que c'est déraisonnable de faire plus de 2 tentatives. C'est que peut-être ce n'est pas votre profil, ou peut-être vous n'avez pas eu la chance. Et il y a beaucoup d'autres métiers passionnants dans le domaine de la santé où vous pouvez vous épanouir complètement. Il n'y a pas que médecine, il n'y a pas que dentiste. Il y a beaucoup de métiers que vous ne connaissez pas, et il y a beaucoup de jeunes à côté qui sont dans des métiers de la santé qui ne sont pas la médecine. Si vous avez la chance d'avoir survécu à cette année difficile, ne vous dites pas que c'est terminé. Ouf, que vous allez pouvoir enfin souffler et vous reposer. Non. C'est 6 années de sacrifice minimum si vous voulez avoir la spécialité de votre choix et aussi la ville de votre choix. Parce que n'oubliez pas que le concours que vous allez passer, qui s'appelle l'ECN, va déterminer toute votre carrière. Et donc, quand vous êtes externe, vous avez 2 ans un petit peu tranquille. Et après, ce concours de l'ECN se prépare sur 3 ans. Vous avez une quantité phénoménale d'informations à ingurgiter et à décanter sur ces 3 années. Faire le lien, parce qu'un être humain, ce n'est pas juste un cœur, un poumon, mais c'est un fonctionnement global. Et donc, vous allez devoir, et il va falloir 3 ans pour faire la synthèse et apprendre toutes ces connaissances théoriques. Qu'est-ce qui est extrêmement difficile pendant cette période ? C'est l'organisation même de vos études qui est compliquée. Vous allez être en stage le matin, tous les matins. Et heureusement, parce que c'est là que vous faites votre initiation, vous commencez à découvrir le fonctionnement d'un hôpital, la hiérarchie, vous vous familiarisez avec le malade, vous commencez à examiner, à comprendre ce qui est normal et ce qui n'est pas normal, ce qui est grave et ce qui n'est pas grave. Donc vous faites quand même un travail pratique. Mais le travail théorique est très important. Donc l'après-midi, quand vous sortez de stage vers 13-14 heures, il va falloir que vous révisiez. Et puis, 2 fois par semaine, à partir de la 4e, en tout cas la 5e et 6e année, vous allez avoir des genres de concours blancs. C'est les prépas privés qui organisent ça. C'est indispensable de les faire. Et donc vous allez avoir des concours blancs comme ça, 2 fois par semaine jusqu'à minuit. On a beaucoup parlé de famille, Vanessa en a beaucoup parlé, je pense que c'est fondamental. Voilà. Il faut pas, enfin, quand on est seul, c'est compliqué, c'est confortable d'avoir ses parents ou quelqu'un de la famille pas trop loin qui va vous faire un petit panier repas pour que vous puissiez manger en sortant de stage ou que vous puissiez manger le soir quand vous êtes de concours blanc. Sinon, c'est des sandwichs matin, midi, soir. C'est pas, voilà. Au bout de 3 ans, vous avez pris 20 kilos. Quand vous êtes externe, vous commencez à travailler de nuit. Vous allez faire ce qu'on appelle les gardes, qui sont rémunérés à mon époque 20 euros la nuit, 30 euros maintenant, je pense. Voilà, donc je l'ai dit, il ne faut pas attendre de rentabilité financière, de temps que vous investissez au moment de vos études. Ces gardes, il y en a un certain nombre à valider, elles sont obligatoires. C'est aux urgences, en réanimation, en pédiatrie. Vous allez faire des stages très variés. Et du coup, commencez à vous orienter vers une spécialité, vers ce que vous avez envie de faire plus tard. C'est ça qui va vous motiver pour passer le CN et vous accrocher. C'est l'objectif, c'est quand même un métier qui est passionnant. Vous n'avez pas le temps de vous ennuyer et le chômage n'existe pas. On aimerait bien même travailler un petit peu moins. Le CN, c'est maintenant un IECN, c'est-à-dire que la fac s'est mise à jour dans la technologie et pour la première année cette année, les étudiants vont passer un concours sur iPad dans leur faculté d'origine. C'est un concours qui est national. Alors, il y a des bugs, ça ne se passe pas très bien, mais bon, ils vont payer les pots cassés une année, après ça va aller très bien. C'est sous forme de QCM, ça leur permet de corriger extrêmement vite et de ne pas passer des mois et des semaines à corriger les 1000 copies. Et du coup, les résultats vont arriver très rapidement derrière. Et ça a le côté agréable de passer le concours dans votre fac, dans des lieux que vous connaissez, et pas dans des hangars poissons à Rungis, ou comme moi je l'ai fait, où on était 2000 ou 3000 dans un hangar. Donc, j'espère que ça va un petit peu dédramatiser ce concours. À l'issue de ce concours, vous avez un classement. Tout le monde est classé, tout le monde va être médecin. Le premier a toutes les possibilités, et le dernier prend ce qui reste. La médecine générale est classiquement moins prisée. Les spécialités médicales sont beaucoup plus prisées, la chirurgie. Et vous ne choisissez pas seulement une catégorie, c'est-à-dire chirurgie, médecine, médecine générale, vous choisissez aussi votre spécialité. Et il y a un numerus clausus, un équivalent numerus clausus, par spécialité et par ville. Vous allez ensuite être interne. Alors la durée va être plus ou moins longue, c'est 3 ans et demi à 5 ans. C'est probablement la partie la plus éprouvante physiquement. Mais c'est passionnant parce que là, vous travaillez. Vous êtes à temps plein à l'hôpital. Vous êtes encore étudiant, mais dans les faits, vous n'êtes plus du tout étudiant. Vous passez de zéro responsabilité à la responsabilité complète, maximale. Vous prenez en charge les malades et vous êtes le premier maillon dans la prise en charge des malades qui arrivent à l'hôpital. Votre chef va vous seconder. Mais il va venir que pour valider ou ne pas valider ce que vous, vous avez décidé. Donc ça se fait pas forcément facilement, et c'est là qu'on se rend compte que 6 ans ne suffisent pas pour former un médecin, et qu'il faut vraiment 10 ans de formation, de travail, pour être médecin. Donc quand vous êtes interne, vous avez un salaire, ce qui vous permet quand même de vivre tout seul, de manière autonome, de fonder une famille, si vous voulez fonder une famille, et c'est possible. Au bout de cet internat, vous passez votre thèse de médecine, qui est de la rigolade après tout ce que vous avez déjà passé. C'est une formalité, c'est très convivial, ça vous permet de remercier aussi vos parents, inviter votre famille à une soutenance. Voilà, c'est un moment plutôt sympathique et c'est pas du tout quelque chose de très compliqué. Tout le monde a sa thèse en médecine. Et vous allez enfin pouvoir choisir votre type de carrière. Alors, quelles sont les carrières possibles? Il y a la carrière hospitalo-universitaire. C'est celle dont moi, je vous ai un petit peu parlé. C'est le master de sciences en parallèle. C'est probablement la thèse de sciences derrière. Et c'est un vrai sacrifice. Quand on est une femme, c'est un sacrifice de temps qui est majeur. Ça va vous demander d'investir, de travailler en plus de votre métier de médecin dans un laboratoire, faire des publications, partir à l'étranger une année, parce qu'on va vous demander de bouger, alors que vous avez la trentaine pratiquement. Tout le monde n'est pas obligé de se lancer dans cette carrière. Il faut vraiment réfléchir, et il faut se connaître, il faut connaître ses priorités et savoir dire stop à un moment. C'est-à-dire que moi, j'ai pris la décision de m'arrêter au master, je suis thésée, j'exerce la médecine, et de ne pas faire de thèse de sciences. Parce que ma vie privée compte aussi, et que l'équilibre personnel est fondamental. Si vous voulez vous occuper des autres, vous devez être bien au quotidien, être solide et épanoui. Et je pense que la famille en fait partie, et construire sa famille en fait partie. Et donc j'ai pris l'option de la carrière hospitalière sans la carrière universitaire et de passer le concours de praticien hospitalier. Donc c'est le concours de la fonction publique pour exercer dans les hôpitaux publics qui ne sont universitaires ou qui ne sont pas universitaires. Ce que vous connaissez plus classiquement, c'est la médecine libérale en ville, en cabinet. Vous pouvez exercer la médecine en libéral, mais au sein de cliniques privées. Où là, il faut devenir un peu businessman quand même. Il faut s'y connaître en texte de loi, sinon vous allez vous faire arnaquer par la clinique qui vous prête ses locaux, en fait. Voilà, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes pour se lancer dans le privé. Et il y a l'industrie pharmaceutique, où là, c'est un métier complètement différent. C'est du commerce, mais axé sur le développement de nouveaux médicaments. Et le but, c'est de faire arriver des médicaments qui sont en cours de phase de test au traitement du patient, directement. Alors, la vie de famille dans tout ça, le bébé, quand est-ce qu'on va le caser? C'est pas si évident que ça. Moi, la vie a fait que ça arrivait après mon clinica, donc ça arrivait très tard. Si je peux vous rassurer, c'est un métier qui est féminisé maintenant. 60% des médecins sont des femmes, et elles ont quasi toutes des enfants. Voilà. Donc pas de panique, vous n'allez pas vous retrouver sans enfants à 40 ans. C'est après des choix de vie, et puis savoir faire des pauses dans sa carrière, et ce n'est pas spécifique aux études de médecine. Quand on est une femme, il y a des phases, des moments pour tout. Il y a des moments pour se consacrer à son métier, et puis il y a des moments pour se consacrer à sa famille. Il y a beaucoup de femmes médecins qui s'arrêtent pendant leur internat. Donc je vous dis, l'internat, vous commencez, vous avez 25 ans, vous n'êtes pas très âgée, vous avez encore de belles années devant vous pour construire votre famille, et qui ont un enfant pendant l'internat, ça va rallonger leur internat de 6 mois, de 1 an. Mais ça fait du bien, et on n'en est plus finalement à 6 mois près quand on en est à ce stade. Parce que je vous ai dit qu'on travaille, on travaille à temps plein. Le revers de cette pause, c'est 6 mois sans salaire. Ça reste un milieu d'hommes, les grands patrons, les doyens sont des hommes, et quand ils ont mis en place les études de médecine, elles ont été mises en place avec un fonctionnement fait pour les hommes. C'est-à-dire que quand vous êtes une femme, la grossesse va vous demander une pause, et cette pause est possible, elle va vous faire du bien, mais vous n'aurez pas de salaire pendant 6 mois. Un interne qui s'arrête, c'est mieux qu'un interne qui vient en stage et qui va s'arrêter au bout de 2 mois parce qu'il a pris la place de quelqu'un d'autre et que quand il s'arrête, il n'est pas remplacé. Ça veut dire que les autres internes vont devoir éponger toute l'activité, les gardes, les astreintes, les week-ends, de l'interne qui est enceinte et qui s'arrête et dont vous êtes détesté. Voilà, je vous ferai là. Donc il vaut mieux le préparer, l'anticiper, et vous pouvez demander ce qu'on appelle une disponibilité ou un surnombre dans un stage où vous ne comptez pas dans le stage, mais vous êtes quand même formé, et puis après vous prenez 6 mois pour vous poser. Sans salaire, donc il faut pouvoir le faire. Ça se prépare, ça s'anticipe, et c'est possible. N'oubliez pas que le métier de médecin est très diversifié et que les carrières sont très variées et très flexibles aussi. C'est-à-dire qu'on peut commencer, comme moi, dans l'hôpital universitaire et puis à un moment se dire « je ne veux plus, je vais arrêter l'universitaire ». C'est un choix qui n'est pas facile parce que vous avez une forte pression pour continuer et toujours aller plus loin. C'est possible aussi, au bout de quelques années, de partir dans le privé et d'organiser votre temps de travail en fonction de votre vie de famille. Mais c'est certain que la stabilité professionnelle va arriver tard. Elle arrive que vers 35 ans, alors que tous vos copains de fac ou d'école ou de lycée ont fini leurs études à 25 ans et ont déjà un travail stable, en tout cas je leur souhaite, beaucoup plus tôt que vous. Donc, c'est compliqué par ce fait où on ne sait pas vraiment où on va aller. Et pendant très longtemps, en tout cas jusqu'à 35 ans, on n'est pas dans une stabilité. Voilà. Il faut chercher un poste ou il faut chercher changer de stage tous les 6 mois. Alors on vous donne les stages, vous n'avez pas trop à les chercher, on vous les propose, mais ça crée un certain inconfort. À Paris, ça va, tous les hôpitaux sont concentrés au même endroit. Et en province, ça peut être un stage à 100 km, 200 km de votre fac d'attachement. Et du coup, les internes sont obligés d'aller habiter pendant 6 mois dans la ville où ils sont envoyés pour ce stage. Voilà. Donc, c'est un métier passionnant. Il ne faut pas en avoir peur. Vous avez toutes les cartes en main pour ensuite créer votre métier à votre image. Et ça met du temps et ça se prépare très en amont. À disposition pour des questions. Je vous fais peur.
C'est votre classement à l'internat qui a fait que vous avez choisi la discipline d'oncologie, ou bien c'est un choix de vocation première?
Les deux. J'avais envie de faire de la cancérologie. C'est les rencontres qu'on fait au cours de son parcours d'étudiant, parce qu'on change beaucoup de stages, qui vont vous nous donner envie de faire une spécialité ou au contraire de ne pas faire une autre spécialité. Détester la cardiologie, j'avais détesté la chirurgie et j'avais beaucoup aimé le stage de cancérologie que j'avais fait parce que mes chefs avaient des valeurs humaines qui étaient en adéquation avec ce que je voulais faire comme métier et ce que je voulais donner aux autres. Alors après, du coup, là, si je voulais faire cette spécialité dans une grande ville, c'est pas une spécialité qu'on peut faire dans un tout petit hôpital dans son coin. C'est une spécialité qui demande des équipes fortes, une unité de recherche à côté, un centre de radiologie performant, et ça ne peut pas se faire dans un cabinet de ville, par exemple. Et donc ça voulait dire choisir une grande ville, où les stages sont variés, où les lieux d'exercice sont variés. Dans une petite ville, il y a un service de cancérologie à tout casser, mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc mon but, c'était d'être bien classée pour pouvoir choisir ma spécialité et pour pouvoir choisir une grande ville. Quelles sont les grandes villes qui sont très prisées? Évidemment, il y a Paris, il y a Lille, il y a Lyon. Après, c'est Toulouse. Voilà, c'est toutes les grandes villes françaises. Évidemment, personne ne veut aller faire de la cancérologie au départ, en tout cas à Amiens ou à Chartres.
Nous profanes, on entend souvent le mot chimio.
Ouais.
Quel est son contenu? 1. 2. S'agit-il d'une discipline qui est complémentaire de la radiothérapie, de la chirurgie ou d'autres choses, ou bien on peut l'aborder directement? Donc, qu'est-ce que ça veut dire chimio pour nous communs des mortels? On l'entend, mais très peu le comprennent.
Pour traiter un cancer, je vous ai dit, on ne peut pas déjà traiter ça dans un coin, tout seul, dans son cabinet. Il faut avoir une équipe de chirurgiens, une équipe de radiothérapeutes et une équipe de chimiothérapeutes. Et donc, quand je vous dis que je suis cancérologue, enfin, je suis oncologue, il y a différentes options. Il y a les chirurgiens qui s'occupent que de la chirurgie des cancers, qui sont chirurgiens à la base. Et puis, il y a les oncologues qui vont soit s'orienter vers la chimiothérapie, soit s'orienter vers la radiothérapie. La radiothérapie, c'est les rayons, c'est en gros, on brûle la tumeur par l'extérieur. Et la chimiothérapie, son but, moi je suis donc chimiothérapeute, si vous voulez, c'est d'aller donner un traitement qui peut être une perfusion, qui peut être un comprimé, qui va aller s'attaquer à une tumeur qui naturellement va avoir envie de grossir et de se développer, qui ne va jamais s'arrêter de grossir et de se développer toute seule. C'est d'aller bloquer la multiplication et le développement de cette cellule par un traitement chimique, si vous voulez, qui peut être en perfusion et qui peut être en comprimé. Mais les radiothérapeutes et les chimiothérapeutes se complètent et doivent travailler ensemble parce qu'on ne traite plus le cancer que par chirurgie ou que par chimiothérapie. C'est des équipes multidisciplinaires qui doivent travailler ensemble pour donner un plan de traitement, en fait, qui va souvent combiner les trois, la plupart du temps. Après, des traitements qui sont longs et lourds.
La chimio, finalement, c'est le terme ultime d'un abord d'un cancer sur une personne. Disons, quand on entend le chimio, ça veut dire qu'on est arrivé à un stade où ni la chirurgie ni les autres disciplines ne peuvent plus rien faire, c'est ça?
Non, heureusement. On guérit. Alors, ça dépend du type de cancer, en fait. Cancer, c'est un terme trop général pour. Il faut individualiser. On ne traite pas de la même manière le cancer du côlon, le cancer du sein, le cancer de la prostate. Mais la chirurgie seule ne suffit pas toujours à guérir les malades. On sait que certains vont rechuter. Et pour éviter la rechute, on peut proposer une chimiothérapie ou de la radiothérapie. Donc on n'est pas du tout dans la fin de la vie de quelqu'un. On est là à toutes les étapes de la maladie, bien sûr, mais on fait de la chimiothérapie aussi pour guérir des gens. Et heureusement. Sinon, c'est déprimant. On fait aussi de la chimiothérapie dans des stades plus avancés pour permettre aux gens de vivre avec leur maladie plus longtemps. Comme un diabétique qui a besoin d'un traitement, et ben, la personne qui a un cancer avec des métastases peut vivre quelques années, mais avec un traitement qu'on ne va pas arrêter, des traitements qui vont changer au cours du temps, mais qui vont être indispensables pour maintenir la maladie au calme. Comme le diabétique, s'il arrête son traitement, le diabète revient. Si un diabétique arrête son insuline, c'est la catastrophe. Donc c'est un métier très varié, où évidemment les soins palliatifs aussi existent. C'est pas... On ne guérit pas tout le monde, mais on guérit aussi beaucoup de personnes. Il n'y a pas que, de la chimiothérapie dans des situations désespérées, heureusement. Mais ça a un apport pour guérir les malades, même dans le cancer du sein. La chirurgie ne va parfois pas suffire. Et on va compléter par des rayons et par de la chimiothérapie. Et les malades vont vous dire que vous les rendez malades et qu'ils vont très très bien, parce qu'effectivement ils vont très très bien, vous les rendez malades avec notre traitement.
Oui, j'ai une question. Alors on parle de femmes médecins, donc en termes de gestion du stress au quotidien, parce qu'en tant que femme médecin, tu disais que tu es plus entourée d'hommes. Ensuite, tu as toute la gestion d'une journée de travail. Donc, en termes de gestion du stress, est-ce qu'il y a des techniques que vous apprenez pendant la fac ou le cursus ou quelque chose qui permettrait justement de mieux gérer le stress au quotidien, en fait, dans un hôpital, par exemple?
Malheureusement, non. Les études de médecine sont extrêmement théoriques. Et déjà, pendant quasi toutes vos études, vous aurez quasi aucune formation, en tout cas ça va arriver très tard, sur déjà la psychologie vis-à-vis du malade. Parce que rentrer dans une relation avec quelqu'un, le soigner, c'est pas toujours de tout repos, il faut parfois désamorcer des situations de stress. Nous, en cancérologie, évidemment, il y a toujours l'idée de l'issue fatale. En pédiatrie, c'est une autre problématique. Les parents sont très angoissés, même pour un petit rhume. Voilà. Donc, il faut savoir gérer déjà le stress de l'autre, des personnes qui sont en face de vous, le stress des équipes autour de vous. Et on va toujours demander au médecin de trouver la solution de tout et pour tout. Voilà. Dès qu'il y a un petit problème, on va demander au médecin, surtout en milieu hospitalier. Et du coup, on l'apprend sur le tas. Nous, en cancérologie, on a la chance d'avoir dans certains hôpitaux qu'on appelle des psycho-oncologues qui vont dédier du temps pour désamorcer des situations compliquées dans une équipe et qui vont être là aussi pour que vous puissiez vider votre stress. Mais je pense que la meilleure gestion du stress, c'est de construire sa vie aussi en dehors de son travail. Et c'est ça qui apporte du baume au cœur. Quand on rentre de l'hôpital, on n'est jamais vraiment léger. On a toujours en tête un patient, une situation compliquée, quelqu'un qui est resté à l'hôpital qui ne va pas très bien. On doit manager à distance ses internes, parce qu'on doit encadrer les plus jeunes. Ça arrive très souvent qu'on soit joignable par téléphone et qu'on doit prendre des décisions à distance. Mais dans ma meilleure thérapie, c'est ma fille. Voilà. C'est de pouvoir s'investir dans autre chose. Ça peut être une passion, le sport, sa famille, les amis. Il faut avoir une vie en dehors de son travail. Vous ne pouvez pas vous consacrer aux autres avec tant d'abnégation, puisque ce n'est pas rentable pour vous financièrement et que c'est quand même une satisfaction, l'argent dans la vie. Si vous voulez vous donner aux autres, il faut être équilibré et serein dans sa tête en dehors. Quand ça devient compliqué à la maison, ça arrive, hein, pour X raisons, parce que le bébé est malade, parce que un tel ne va pas bien, parce que X raisons, on le sent dans le, enfin, au niveau médical, enfin, on le sent au quotidien dans le vécu, on voit tout de suite que la personne est stressée, qu'elle n'a pas réussi à mettre de côté, à séparer sa vie privée, sa vie professionnelle. Et je pense que c'est un challenge pour tout le monde. Dans une société où on a la pression pour travailler, travailler toujours plus avec des moyens toujours réduits, c'est une problématique pour tous les jeunes d'aujourd'hui. C'est comment je vais réussir à trouver un équilibre entre travail et famille. C'est des périodes dans votre vie. Vous aurez plus envie de vous investir sur le travail, des périodes où vous aurez plus envie de vous investir dans votre famille, mais c'est des compromis à trouver. Je ne pourrais pas faire ce métier et avoir une petite fille sans un conjoint qui comprend, déjà. Qui comprend que on a rendez-vous à 18h30, mais il est resté une heure dans la voiture à m'attendre jusqu'à 19h30 parce qu'il y a eu une urgence de dernière minute. L'urgence, elle est vitale. Elle ne peut pas être reportée au lendemain. Il faut un conjoint qui comprenne que le malade va devenir un peu prioritaire. Que le week-end, vous êtes d'astreinte le matin, mais que la matinée va se terminer à 16h. Mais je vous rassure, je ne travaille pas tous les week-ends et je ne sors pas à 21h tous les soirs. Il y a une période de sacrifice pendant ces études où on n'a pas trop le choix, où il faut avancer et il faut être bien classé pour choisir votre métier, enfin, votre spécialité. Il faut se former, et il faut apprendre, il faut manger du malade en quelque sorte, il faut être sur le terrain. Et puis après, dans un second temps, vous pouvez avoir une certaine souplesse. Parce que vous êtes plus posé, vous êtes stabilisé et vous orientez votre carrière en fonction de vos priorités. Il y a des personnes, des femmes qui travaillent 4 jours sur 5. Les jours où vous travaillez, c'est du non-stop, ça va être des grosses journées. Mais la famille est fondamentale. Sans les grands-parents des deux côtés, c'est très compliqué. Ça fait du bien de pouvoir laisser bébé aux grands-parents pour pouvoir préparer un topo, pour pouvoir faire tranquillement son astreinte. Et puis voilà, je pense qu'il ne faut pas s'isoler, que ce soit du début de ses études médicales jusqu'à la fin quand on travaille. Merci beaucoup. Alors, on va faire une pause café. Donc, le café vous attend dehors avec un petit goûter. On reprend dans 15 minutes, donc à -5, avec la conférence suivante.